Bonjour, voilà, je suis à entendre l'émission de Morand là avec Gadonex. Je suis agent EDF, moi aussi. Ce qui est toujours dommage, c'est de jamais recevoir les éléments fabricants, c'est-à-dire les ouvriers, les salariés d'EDF, et comme d'ailleurs de toute autre entreprise. Gadonex n'a fait que de mentir. Gadonex s'est comporté comme le pèlerin à l'époque de Tchernobyl. Et ce qu'il vient de dire est honteusement un mensonge total. Non, effectivement, la panne qui a été qui a eu lieu samedi montre pas que le réseau français a bien fonctionné, montre simplement d'avoir une chose. Sur le nucléaire, on a menti depuis des lustres et des lustres. Il n'y a pas d'indépendance nationale. Hein. C'est une remise en cause totale du service public. Et on s'aperçoit vraiment qu'on est au tout petit début et d'un long parcours qui va être catastrophique pour les populations, de privatisation. Qui va gérer et qui va payer les travaux à faire? Et là, Gadonex, une fois de plus, s'est comporté, lui qui se vante tout le temps de dire « je ne suis pas un politique », il n'a que des réponses de politique. D'ailleurs, à la place qu'il occupe, on sait très bien que Gadonex est un politique. Et c'est pas ça que je lui reproche, mais ce que je lui reproche à ces gens-là, c'est de ne pas avoir la volonté, le courage politique d'affirmer les choses. Moi, je suis politique, je dis pourquoi cette société nous emmène à la catastrophe, je dis pourquoi les modes de consommation, les modes de croissance, les modes de production, et ça c'est politique, et il faut arrêter de se leurrer. Nous, en tant qu'agents EDF, et le mur, il est tout prêt pour la population, coûter des fortunes à la population, on sait très bien dans quoi on va.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Alors nos libéraux et moins libéraux de tout poil, ils ont, comme rare échappée intellectuelle obsédante, la croissance. La croissance remède à tous les maux de ce monde malade, maladie due paradoxalement à cette croissance complètement débridée et libérale. Mais Daniel, explique-moi, si l'on suit cette logique exponentielle complètement folle, que la croissance crée les emplois, il ne devrait plus y avoir un chômeur car... Que se passe-t-il depuis 30 ans? Il y a, bon an mal an, entre 1 et 4% au moins de croissance annuelle. Et le chômage ne cesse d'augmenter depuis cette période. Je ne comprends pas. Alors explique-moi, je t'en prie. Salut à tous, merci.
Franchement, je suis écœuré là. J'avais laissé la radio allumée et puis je passe à côté au moment des titres du journal 23h. Et je vois que le premier titre, c'était l'histoire de cette jeune mère qui reconnaît avoir jeté son enfant elle-même dans un lac, je ne sais plus où. Et donc, histoire à laquelle je ne pensais même plus, mais qu'on nous martèle toutes les heures. Ça m'écœure parce que, on a l'impression que ce qui motive tout ça, c'est le spectacle, le goût du spectaculaire. Voilà. Ah, on a trouvé un gosse assassiné, on fait croire que c'est par intérêt pour l'enfant, la protection de l'enfance. Et en fait, les gens s'en foutent, quoi. Ce qui les intéresse, voilà. On va s'apercevoir qu'en fait, c'est la mère qui l'a tué. J'entends dans ces mêmes nouvelles qu'elle a 19 ans, la mère. Si je me souviens d'autres nouvelles que j'ai entendues, il avait 14 mois. Donc en fait, je sais pas du tout quelle est la cause. Je défends pas du tout le crime. Je me dis que tout simplement, ça doit être un témoignage d'une certaine misère. Et que c'est pas du tout ça qui intéresse les gens, de résorber ça, quoi. Et franchement, ça m'écœure, quoi. J'entends parler le procureur qui parlait des déclarations évolutives de la mère.
Alors, j'appelle parce que c'est à propos des infos que j'entends. Là, tout le monde est content, apparemment, les élites, hein, les PC journalistes, les journalistes, hein, tout le monde est content pour la condamnation de Saddam Hussein. Mais c'est marrant, c'est que personne ne dit, quoi. On l'accuse de tout ce qu'il a fait, c'est vrai, mais qui l'a mis ces gaz moutardes? Qui a mis toutes ces merdes pour qu'il ait que gazé des Kurdes, des enfants et tout? Qui lui, hein, les Anglais, les Américains, puis à notre nation, et puis il y a l'usine Bayer. Bayer qui a donné ce gaz pour gazer les Kurdes. Et puis, qu'est-ce qu'il disait, les gars de Bayer? On ne pensait pas qu'il allait utiliser tout de suite. Voilà ce qu'ils ont trouvé à dire les responsables de Bayer, du laboratoire Bayer en Allemagne. C'est marrant, mais ça, personne ne veut le dire. Hein? Mais c'est bien la pendaison de Saddam Hussein. Comme ça, il ne dit pas la vérité de tout ce qui va autour. Comme les Anglais, ils cherchent toujours ce gaz inodeur qu'ils ont donné à Saddam Hussein. Et ça, c'est quelqu'un, des journalistes, des terrains qu'on avait parlé une fois à la télé et depuis on n'a plus parlé. Et que les Anglais, ils cherchent absolument ce gaz inodore qu'ils ont donné à Saddam Hussein pour mettre sur un certain peuple qu'il n'a pas mis. Et voilà quoi. Et puis pour le reste, je suis content de cette émission sur l'Afghanistan. C'est vraiment le bonheur quoi. Et genre, on apprend pas mal. Et merci, et continuez quoi. Et à bientôt. Ciao à toute l'équipe. Ciao.
Le bonheur d'apprendre, mais pas le bonheur tout court pour ce qui concerne l'Afghanistan. On continue ce retour en Afghanistan. Aujourd'hui, on reprend le voyage. Et là, notre voyage, 5 ans après, donc, croise l'actualité, au moins l'actualité des États-Unis d'Amérique. Vous le savez, aujourd'hui, il y a des élections importantes aux États-Unis, les élections à mi-mandat. Et celui qui, il y a 5 ans, partait en croisade contre le mal, non seulement contre le mal, mais contre un axe du mal. Aujourd'hui, beaucoup moins flambant, beaucoup moins sabre au clair. Et le bilan, en Irak, n'en parlons même pas. Mais en Afghanistan, c'est dommage d'ailleurs qu'on n'en parle pas davantage en Afghanistan, parce que le bilan pourrait être moins sanglant, c'est vrai, n'en est pas moins assez consternant, assez triste, et l'avenir surtout, l'Afghanistan est quand même assez sombre. Illusion perdue, occasion manquée, le grand djihad de Monsieur George W. Bush, qui aujourd'hui sont les termes un peu de cette balade. On se baladera aussi, si on peut dire, avec les militaires français qui sont présents dans l'ISAF, c'est-à-dire les forces de l'OTAN. Et puis on ira au bazar se préparer, parce qu'on va descendre à Kandahar, et on ne descend pas à Kandahar dans n'importe quelle tenue. Et puis on ira faire un petit tour dans une madrassa avec des jeunes gens, des jeunes étudiants en religion, qui nous diront tout sur la musique et sur l'amour. C'est après les messages que voici encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Jojo, mon grand-père, s'était éteint cette nuit. Jojo, c'était un héros ordinaire, un grand-père un peu comme dans les films, juste un peu plus réaliste. Jojo, il m'a raconté un peu sa vie et j'y pense souvent. Il me parlait du vieux temps qui, sans savoir si c'était mieux ou pas, coulait en tout cas plus doucement et plus tranquillement. Il me racontait aussi ses années en camp de travail dans l'Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était né en 1922 et il a bossé dur toute sa vie, comme beaucoup de nos grands-parents. Après quelques années de retraite, l'amiante avec laquelle il travaillait a fait son sale boulot et est venu lui rappeler qu'on n'est pas éternel. Il s'est accroché, il a lutté et il ne voulait pas abandonner sa femme, elle-même perdue dans la conscience, dans sa conscience et sa perte d'identité, toujours la maladie. Jojo, c'était le lien le plus étroit que j'avais entre le monde des années 2000 et celui du siècle précédent. Lui vivait à cheval entre les deux et n'aimait pas les injustices. Il n'avait pas la morale dans les chaussettes, comme on dit. Il était digne, juste. Je vous fais partager son envol, car j'ai besoin, je crois, de témoigner pour lui. Il y a des gens comme ça qui laissent des empreintes et qui donnent du sens. Adieu Jojo, bonne continuation à vous. C'était Nico de Vienne, dans l'Isère. Bye bye.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. La campagne annuelle de Taquiner France Inter se poursuit. Jeudi 9 novembre à 18h30 devant les bureaux de France Inter Marseille, nous allons inaugurer l'indignomètre. Qu'est-ce que l'indignomètre ? C'est une machine extrêmement perfectionnée mais tellement impitoyable puisqu'elle décernera chaque mois le redoutable prix GEM. GEM pour journaliste, animateur, indigne du mois. L'indignomètre propose de mettre tous les auditeurs à contribution en nous demandant d'avoir une écoute attentive de France Inter. Nous devons intervenir par courrier, par courriel, par téléphone, à chaque manquement de notre chère radio. Il est recommandé de le faire avec humour, tact et délicatesse. Ensuite, nous avons la possibilité de faire connaître nos taquineries par l'intermédiaire du site www.taquinerfranceinter.org. L'indignomètre a été testé pendant le mois de septembre et au vu des nombreuses réactions, nous pouvons affirmer qu'il est parfaitement opérant. Enfin, et pour terminer, dans d'autres villes de France, les auditeurs de France Inter installent des capteurs locaux. Le terminal national de l'indignomètre étant situé à Marseille. Soyons nombreux le jeudi 9 novembre à 18h30 devant les bureaux de France Marseille, situé 98 rue de l'Évêché, dans le 2e arrondissement. C'était dit un AMG d'Aix-en-Provence.
Clear in action, wanted. Ok.
Vous avez du nouveau ?
Suicide bomber, attaque suicide sur un établissement ministériel afghan. Pas de bilan pour l'instant.
Ce chef de la police de Kaboul n'hésite pas à attribuer cet acte à Al-Qaïda et aux talibans.
C'est la fin du règne des talibans sur l'Afghanistan.
No, that's not possible. The Taliban will be vanish in Afghanistan.
Non, c'est impossible de faire disparaître les talibans d'Afghanistan.
Bon, mais qu'est-ce qui se passe si on arrive en jean et en t-shirt à Kandahar?
Peut-être on prend un petit coup de balle dans notre corps et c'est tout.
C'est tout. Juste un petit coup de balle dans ton corps.
Et voilà, bon.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil, un retour en Afghanistan.
Flight number 2, arriving from New York.
Now straight ahead on our continuing coverage of the war on terror.
En 3 mois, la présidence de George Bush a pris un tour radicalement nouveau. Il prône désormais la lutte systématique contre le terrorisme, quels que soient les pays où il faudra intervenir.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
L'axe du mal, tout devenait clair, tout devenait simple et tout devenait comme avant, biblique comme on dit. Oui, il y avait eux, il y avait nous, eux, les méchants, les barbares et nous, les bons, les civilisés qui ne comprenions pas comment on pouvait ne pas nous aimer. Et il y avait donc cet axe du mal, l'axe, ça rappelle les forces de l'axe, c'est-à-dire cet axe qui existait entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Axe, ça résonnait, ça avait une résonance historique, et puis le mal, eh bien ça au moins, c'est clair. Et sur cet axe du mal, eh bien, il y a, puisque cette politique est toujours la même, il y a un certain nombre de « rogue states », c'est-à-dire d'États bandits, d'États mauvais, d'États méchants. C'est la construction de la guerre des civilisations, eux, nous, décidément, après la lutte contre le communisme, la lutte contre le nazisme, eh bien, on est entré dans la lutte contre le terrorisme. C'était il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, et puis les choses ont évolué comme nous savons, c'est-à-dire de la façon la pire qui soit, pour ce qui concerne l'Irak, et pour ce qui concerne l'Afghanistan, même si l'histoire est tout de même différente. Eh bien, après une période d'embellie, une période d'espoir surtout pour les Afghans, eh bien, on est en train de déchanter. On en parle moins, beaucoup moins de l'Afghanistan. L'horreur irakienne fait écran, mais je le disais en commençant, et vous le savez, l'horizon est très sombre. On va le voir à travers les reportages d'aujourd'hui. Et on va voir ce que font ces militaires français, par exemple, au milieu de ces forces d'interposition qui savent pas très bien ce qu'ils font là, ce qu'ils doivent faire. En principe, la mission était évidemment de soutenir, il s'agit de construire un État ou de reconstruire un État, ce qui n'est pas une tâche ni mince ni facile. Et donc, cette présence militaire était là pour soutenir le développement d'une force militaire afghane. Force est de constater aujourd'hui que cette force militaire afghane n'est pas une force du tout militaire, à peine, mais force sans doute pas. On verra aussi ce qui se passe dans une madrassa, comment ces fameuses madrassas, comment les jeunes étudiants, élèves de cette madrassa nous parlent. Et puis, on ira faire un tour aussi au bazar de Kaboul pour se préparer. On peut pas aller comme ça, comme vous êtes habillés, vous et moi, dans cette ville Kandahar, qui est quand même le berceau du mouvement taliban. Et qui est le berceau du renouveau du mouvement taliban, c'est-à-dire de la rébellion, de la guérilla, comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez, mais de cette force qui aujourd'hui pose bien des problèmes à nos militaires français, étrangers, américains, et qui risque de poser des problèmes non seulement à l'Afghanistan, mais à la région tout entière et au-delà. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, un retour en Afghanistan.
Sadaka.
Voilà, donc je suis le capitaine Garrigue, je commande la compagnie d'infanterie du bataillon français pour le mandat Pamir 13. Donc moi, ma zone d'action se situe essentiellement au nord de Kaboul. Donc j'ai une zone qui fait 710 km², qui est répartie sur 1 million d'habitants, avec 5 police districts sur le nord de Kaboul.
Ah oui, on voit là sur la carte.
Voilà, l'aéroport, il est là. Ma mission, donc, c'est de contrôler ma zone d'action, hein, et de participer à la sécurité de la force. Alors pour ce faire, j'ai été tasqué sur plusieurs missions. Donc j'ai une section en force de réaction rapide, en alerte 15 minutes, qui est en mesure d'intervenir sur toute la zone d'action du bataillon français. Et ensuite, on arme également des points de contrôle routiers inopinés sur les grands axes majeurs qui rentrent dans Kaboul, notamment l'axe Botel, ici, et l'axe Horseshoe. Voilà, donc, mode d'action, donc patrouille en véhicule et à pied. En fait, on est là pour tenir le terrain, pour faire une présence, pour justement gêner toute activité terroriste. Puis le renseignement qui nous remonte, c'est que vraiment on gêne l'activité terroriste, puisque par nos contrôles inopinés, bah, les gens, forcément, on nuit à leur... au bon fonctionnement de leur activité néfaste pour les forces de la coalition. Donc forcément...
On sait qui fait ça ou pas?
Bah c'est des terroristes, hein, soit des talibans, soit des gens affiliés au HIG, ou voilà, ils viennent nuire pour essayer de taper des forces de la coalition, quoi, pour créer un climat d'insécurité. Voilà.
Voilà. Climat d'insécurité, voilà, on est avec les militaires français de l'ISAF, c'est-à-dire des forces contrôlées par l'OTAN, et on est en bédède, c'est-à-dire que Give, ben, il est en bédède. C'est peu de dire que on se comprend pas dans ce pays entre ces forces de l'OTAN et les gens. Des gens qu'ils ont, en principe, dont ils ont assuré la sécurité face à ces activités néfastes et de ces terroristes. Que savent-ils? Qu'est-ce que ces militaires français savent des gens qu'ils ont à protéger? Que savent-ils des réalités de ce pays? On peut dire qu'ils se demandent un peu ce qu'ils font là, même s'ils ne le disent pas directement au micro.
Alors aujourd'hui, pour le programme de la journée, on va récupérer 4 policiers et on va faire une patrouille à pied dans les quartiers de PD11.
Non, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre?
Oui, on met le gilet pare-balles avec le casque pour tous les déplacements en véhicule et à pied. Et donc vous demanderez de mettre un gilet pare-balles et un casque au moins dans le véhicule. Donc après, bon, c'est sous votre responsabilité si vous voulez pas le mettre.
Voilà, et puis après, des risques particuliers pour ce genre de patrouille, pour ce genre de mission?
Bah, les risques, de toute façon, c'est les risques habituels qu'il y a jusqu'à donc DOD, donc d'engins explosifs improvisés, de suicides bombeurs, d'attaques terroristes inopinées, voilà. Mais bon, comme je vous dis, ça fait quand même 3 mois qu'on est là, et pour le moment, on a été mis à part le 14 août où des éléments ont été la cible d'un IED. On n'a pas été exposé à d'autres incidents là-dessus. Je veux dire, la French Touch, il fait un peu pour quelque chose. Enfin, il est là pour quelque chose parce que bon, les Français, on est quand même bien appréciés et peut-être, enfin, j'ose espérer, on peut le croire, qu'on n'est peut-être pas forcément la cible privilégiée sur notre zone de responsabilité.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afghanistan se débat dans un véritable marasme, là, la persistance de l'insécurité, de la misère. Suscite le rejet de l'occupation étrangère en général, en règle générale. Mais il y a quand même des nuances, surtout à Kaboul, où on fait la différence entre les forces américaines et de la coalition et les forces quand même de l'OTAN, de l'ISAF et notamment des forces françaises. Les vrais, les Français ont la cote même quand ils sont en militaire. Mais ça, c'est valable pour Kaboul. Je ne suis pas sûr que ça soit valable pour tout l'Afghanistan. Là-dessus, le point de vue d'Olivier Roy. Je rappelle que Olivier Roy est un spécialiste du Moyen-Orient et aussi de l'Afghanistan.
Vous décrivez les forces internationales en présence, en particulier l'OTAN, donc les Français, plus de 1000 Français sur place, comme complètement déconnectés de la réalité de ce qui se passe dans le pays.
Oui, ils sont déconnectés. Alors, les Français, comme les Italiens, comme souvent les Anglais, ils s'en tirent parce qu'ils ont le feeling, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que le soldat français de base, quand il va à pied dans un village du nord de l'Afghanistan, il n'y a aucun problème avec la population. Ça se passe très bien. Au sud, maintenant, on sent une hostilité très, très nette. Mais après, on tombe sur un gros problème. Il y a une rotation des cadres qui est très, très élevée. Le général reste en général 8 mois là-bas. Bon, ce qui est impossible. Et puis, on est obligé d'appliquer les procédures de l'OTAN. Donc, si vous voulez, personne ne peut prendre ça en main. Enfin, on ne peut pas nommer quelqu'un qui serait responsable pendant 2 ans de tout ce qui se passerait là-bas. Les Américains ont eu, à un moment donné, leur ambassadeur Khalilzad. Maintenant, il est parti, il est à Bagdad. Et voilà, depuis, il n'y a plus personne qui incarne, je dirais, les pouvoirs politiques ou militaires, ou même simplement le pouvoir politique ou le pouvoir militaire.
Attention, boss.
Ah, oh, puis en plus, moi, j'ai l'unité.
Donc on va faire une patrouille dans un premier temps en véhicule.
Et c'est avec ce véhicule là.
Tout à fait, donc ça c'est le VBL du commandant d'unité. Donc
VBL, véhicule VBL. Blindé léger.
Tout à fait. Et le VAB, véhicule d'avant blindé.
Voilà. Plus gros et plus blindé. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Donc dans un premier temps on va se déplacer sur l'aéroport de Kaya parce que moi je dois effectuer une mission de déposer un VBL puis récupérer un interprète. Parce que comme on parle pas trop la langue, bien. Et à l'issue, on part sur notre mission donc, de patrouille. Donc nous, à notre niveau, lorsque si on est pris à partie, on ouvre le feu.
Ah oui, ah
donc, oui. Oui, tout à fait, oui. On ouvre le feu, ouverture du feu si pris à partie pour se dégager de la zone. Donc pareil, depuis les derniers événements qu'il y a eu là, on nous a ordonné de ne plus mettre de PAX sur les tapes arrière des véhicules. Et au centre, on peut avoir le chef de groupe, le chef d'équipe qui est au centre, et puis le SERT devant, tape centrale avec la 12-7 ou la NF1. Voilà.
J'ai rien compris, mais en gros,
c'est
de dire.
En gros, voilà, c'est ça, il ne faut pas être à l'extérieur. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est un militaire.
Parce que le danger des IED, c'est donc l'explosion sur des véhicules blindés, donc un phénomène de souffle, et souvent, très souvent, le blindé se retourne. Et la personne qui est à l'extérieur, qui aurait la moitié du corps sorti, n'aurait pas le temps, bien sûr, de rentrer à l'intérieur. Donc on invite, on demande aux soldats d'être rentrés, d'observer, mais de ne pas avoir le corps sorti. Voilà.
Tout le monde se carapassonne, tout le monde se prépare. Je vais là. Hein. Ah oui, c'est une gilet pare-balles. Hein. Je sais pas du tout comment ça se met ce truc. Voilà, super. Voilà, empaqueté là.
You confirm 7, Kevin Action. 7 and 20 injured, right?
Sadoka.
7 kill in action, yeah? 20 injured. Ok, right. Ok, bye-bye.
Donc il se confirmerait que c'est un suicide d'attaque. Contre, a priori, le ministère de l'Intérieur. Ça, tout ça, les attentats suicides, c'est quelque chose de récent en Afghanistan.
Oui, moi j'ai souvenance du premier suicide d'attaque, je crois que c'est date de 2003, au printemps 2003, sur la route de Jalalabad contre un bus de l'armée allemande. Un ou deux kamikazes s'étaient fait exploser avec un véhicule avec énormément d'explosifs à bord. Je crois que c'était le premier cas de suicide d'attaque. Mais c'est un mode opératoire qui n'est pas un mode opératoire afghan et qui tend à se multiplier depuis quelques semaines en Afghanistan, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Et aussi un peu à Kaboul.
L'explosion a été très forte. Le bus de la force internationale a été projeté à 10 mètres sur le bas-côté de la route. À son bord, 33 militaires allemands. Leur mission en Afghanistan était terminée. Ils roulaient en direction de l'aéroport de Kaboul sur la route de Jalalabad. 3 d'entre eux sont morts dans l'explosion. Selon le commandement de l'ISAF, il s'agit probablement d'une attaque suicide à la voiture piégée. Des témoins affirment avoir vu un taxi se coller à l'autobus juste avant l'explosion. Ce chef de la police de Kaboul n'hésite pas à attribuer cet acte à Al-Qaïda et aux talibans. Immédiatement après l'explosion, des dizaines de véhicules de la force internationale ont foncé sur les lieux. La zone a été totalement bouclée. Actuellement sous commandement allemand et néerlandais, l'ISAF déployé en Afghanistan en décembre 2001 compte 4700 soldats de 28 pays. Sa mission, assurer la sécurité dans Kaboul et sa région.
Alors évidemment, l'Afghanistan a été le sanctuaire de Oussama Ben Laden et d'Al-Qaïda et des hommes de Oussama Ben Laden. Est-ce que l'Afghanistan l'est toujours ? Ce serait très malin de le dire. J'ai pas du tout la compétence pour le dire. Mais on voit dans ce commentaire qu'on fait un amalgame entre les talibans et Al-Qaïda. On fait amalgame aussi de plus en plus entre l'Irak et l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'on parle d'une irakisation de l'Afghanistan. Quelle est la situation, Olivier Roy ?
بلد جرگه دیست که اروس خودش گفته بود که سه سال ما در افغانستان پاچهی میکنیم
صداقه
You confirm 7 Kevin Action 7 and 20 in June, right?
Alors il y a 5 ans on s'était... On présentait ça comme une victoire, on se souvient des images de la libération de Kaboul, la chute des talibans, etc. Ce que vous nous dites, c'est une défaite, c'est un échec.
C'est un échec, c'est pas une défaite. Parce que les talibans, on n'est pas en Irak, hein, par exemple, là aujourd'hui c'est très à la mode.
Est-ce qu'on va pas vers ça ?
En Irak, vous avez une dimension fondamentale de l'Irak qui est la guerre civile. Bon, en Afghanistan, il n'y a pas de guerre civile. Si les talibans gagnent dans le sud, on aura certainement une guerre civile, parce que le nord était en guerre contre les talibans. Et à ce moment-là, les gens du nord, bien entendu, considéreront que les occidentaux sont leurs alliés, ce qui n'est pas le cas en Irak. D'autre part, il y a moins de 30 000 troupes étrangères en Afghanistan pour 135 000 en Irak, alors que la superficie et la population locale sont à peu près équivalentes. Hein. Donc on ne peut pas quand même comparer. Mais on voit très nettement comment les talibans s'alignent de plus en plus sur le type de guerre en Irak. L'apparition, par exemple, d'attentats suicides, ce qui est nouveau en Afghanistan. Probablement la présence de combattants étrangers. Et puis, il est clair qu'un certain nombre de gens qui sont du côté des talibans, qu'ils soient eux-mêmes les Afghans ou qu'ils soient des Arabes, sont passés par l'Irak. On fait un petit tour en Irak. D'autre part, comme chacun sait, Ben Laden est toujours bien vivant au Pakistan, c'est-à-dire juste de l'autre côté.
Bon, ça, c'est pas comme chacun sait, il y a des doutes là-dessus. C'est vous qui le savez ou c'est vous qui en êtes sûr ? Parce qu'il y a beaucoup de choses contradictoires qui se disent sur Ben Laden. On dit qu'il est mort, on dit qu'il est ailleurs.
Si Ben Laden est vivant, ce qui est probable, il est au Pakistan. Il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est-à-dire, Ben Laden n'est ni en Iran, ni en Inde, ni en Arabie Saoudite. Il est protégé au Pakistan, justement, par les groupes radicaux pakistanais qui, eux, sont très très bien enracinés au Pakistan et qui bénéficient de solides complicités à tous les échelons de l'armée et de l'administration pakistanaise. Donc, il y a cette dimension extrêmement importante. C'est la sanctuarisation des talibans et d'Al-Qaïda au Pakistan. D'autre part, sur le plan politique, le gouvernement pakistanais, c'est-à-dire que la politique officielle du gouvernement pakistanais, c'est de ramener au pouvoir ce qu'ils appellent les talibans modérés. Le problème, évidemment, c'est qu'est-ce qu'un taliban modéré ? Bon, ça fait des années qu'on parle de cette question-là. D'autre part, les Pakistanais considèrent que la présence des troupes occidentales est un problème et sont pour le départ des troupes occidentales. Donc, si vous voulez, quand vous avez un gouvernement qui est pour le départ des troupes occidentales et pour le remplacement du gouvernement Karzai, eh bien, inutile de vous dire que, de fait, il soutient les talibans.
Faire maintenant, là. On est en train de marcher, patrouiller en ville. Ouais. À quoi il faut faire attention ? Quelle est la mission en gros ?
Ouais, c'est ce qu'on appelle le renseignement d'ambiance. Donc c'est des patrouilles comme on l'a fait là en véhicule, puis après on s'arrête, on débarque et on prend avec nous les policiers pour faire des patrouilles à pied pour aller au contact de la population. Ce qui permet aussi d'avoir une bonne image auprès de la population parce que le français a une bonne presse auprès de l'Afghan.
Mais là on n'est pas en situation de guerre.
Non, on est en maintien de la paix, on va dire. Voilà.
Donc là, votre fusil, il est chargé ou pas ?
Non, il n'est pas chargé, il est approvisionné. J'ai juste mis un chargeur, mais la cartouche n'est pas engagée. Voilà. On est là pour participer à l'amélioration de la situation sécuritaire de l'Afghanistan.
Voilà, tu regardes, que Urus Khodesh Goftavitka, c'est seulement dans l'Afghanistan, pour que tu y mettes, mais je suis c'est seulement mon opposition. Alors, ça, c'est que je me suis remis.
Lorsque des Russes ils ont agressé notre pays, au départ, ils sont présentés comme nos amis. Ils disaient que l'hospitalité des Afghans, c'est pendant 3 ans. Après 3 ans, c'est fini. Ils vont nous reposer dans notre pays.
Et ça va marcher pour les forces étrangères qui sont actuellement en Afghanistan, comme pour les Russes, tu crois ?
Négatif.
Toi, le policier afghan qui patrouille avec les forces de l'OTAN, l'ISAF.
با کسی گرفت گیری گرفته نداشت دوست میگفتیش دوست بود که دشمن میگفتی دشمن و سر ننگ ناموس کسی تجاوز نمیکرد و هزی که او را مردم بسیار
Les Russes, quand ils sont venus au départ en Afghanistan, ils se sont présentés comme nos amis. Après, on a compris qu'ils ont attaqué notre population. Après, on leur a poussé dehors de notre pays. Et les populations ne sont pas tous pessimistes des multinationales forces en Afghanistan. Ils sont tous pessimistes des Américains, parce que des Américains ont toujours eu l'attaque sur notre population. Et des filles, 14 ans, qui travaillent pour l'établissement des Américains. Elles gagnent 1000 euros mensuels.
J'ai pas compris les filles. C'est quoi les...
C'est la rumeur. Il dit que les populations vont penser qu'elles sont tous forniquées par des Américains.
Ah, ça, c'est les rumeurs qui se disent que les Américains payent beaucoup les filles. C'est forcément des prostituées. Quoi. Ça, c'est ce qu'on répète dans le bazar à Kaboul.
Voilà, des tours sur le chasse, on va dire que je suis là.
Il dit que personnellement, il n'a pas vu, mais il a entendu de parler comme ça.
چی شود با چهره زرد من نظر برای خدا کنی چی شود با چهره زرد من نظر برای خدا کنی کی اگر کنی مادر من با یکی نزاره دوا کنی چی شود با چهره زرد من
Alors, le bazar. Alors, on cherche le bazar des vêtements, là.
Oui.
Tu sais où c'est? Allez, on va suivre Akbar, qui lui sait où c'est. Qu'est-ce qu'il faut acheter, Akbar?
Il faut acheter des vêtements pour Kanda.
Et alors, quel genre de vêtements?
Chalwar kameez.
Chalwar kameez, oui.
Chalwar kameez, c'est quoi, c'est-à-dire?
Ça veut dire pantalon, chemise.
Ah bon? Ouais.
Mais c'est l'espèce de longue tunique.
Mais il faut mettre un turban aussi.
Turban, c'est pas très nécessaire, mais il faut acheter un chapeau blanc, si on peut être.
Chapeau blanc, chemise et kamaz.
Et pourquoi il faut qu'on s'habille comme ça?
C'est comme un gilet pare-balles, mais c'est pas un vrai gilet pare-balles. On a besoin pour notre propre sécurité. Quoi.
Ce serait quand même mieux si on avait une barbe aussi, non?
Oui, barbe aussi, c'est mieux.
Moi, je veux bien me teindre un peu au henné. Il y a des gars qui se teignent en roux ici. Donnez-nous un déguisement pour passer inaperçu.
Bon. Quelle couleur vous voulez?
Grèche beige.
Non, comme ça, clair.
C'est bien ça, tu crois?
C'est bien, le couleur ouais. Aussi.
Bon, mais on va pas prendre la même couleur tous les deux avec qui?
Non, tu choisis la couleur.
Ça te plaît quand même.
C'est vrai que sans perdre beaucoup, je passe pas trop. Parce que ça fait vraiment local, là-bas. Ouais. Le vert et le noir, si tu es...
Ça, c'est bien. Et ça, c'est bien, mais c'est... moi, il faut que ce soit grand, hein, parce que je suis balèze. Hein.
Une cabine d'essayage ou pas?
Ouais. Une très grande cabine d'essayage.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fille quoi, pour regarder.
Non. Oui, mais il n'y a pas de fille pour te donner des conseils non plus. Fais voir un peu les épaules. Alors là, tu passes absolument inaperçu. Je te reconnaissais même pas.
En s'essayant, écoute, ça fait un peu autant d'emporte le vent, quoi.
Bon, je vais essayer. Attends, je vais te passer.
On file la tête. Le petit garçon qui s'est arrêté avec ses œufs là, pour regarder. Vas-y.
Comment tu me trouves? C'est parfait.
C'est là ce qu'Abraham dit.
C'est comme les Afghans.
Hein?
Comme les Afghans, il dit.
Je suis comme un Afghan. C'est beau, hein? Élégant, hein?
Qu'est-ce
que tu as acheté comme chapeau pour être comme un Afghan, d'après toi?
Ça fait. Blanc.
Blanc, un petit chapeau blanc comme ça? Il faut que j'achète un chapeau comme ça, comme le monsieur.
Tu veux pas un turban comme le monsieur avec son vélo, là, avec sa longue barbe blanche?
Mais je suis jamais arrivé à enrouler ça, moi, un turban. Déjà, un chapeau blanc, bon. Alors, est-ce qu'ils vendent des fausses barbes aussi? C'est des fausses barbes qui se collent. Une belle barbe noire, comme ça.
Non.
Hein? Bon.
Mais bah, qu'est-ce qui se passe si on arrive en jean et en t-shirt à Kandahar?
Peut-être on prend un petit coup de balle dans notre corps et c'est tout.
C'est tout. Juste un petit coup de balle dans ton corps.
Et voilà.
Bon.
Sinon, avant, dans les premières années, on était allé avec les talibans. Ils n'ont rien dit. Mais après 3 ans, la situation a beaucoup changé. Maintenant, tu peux pas aller sans vêtements afghans.
C'est le dress code taliban. Il faut qu'on soit sur le dress code taliban.
Ah, préparatif pour partir pour Kandahar. Plus personne ne va à Kandahar. Il y a plus de... Les vols Kaboul-Kandahar sont suspendus. Il n'y a plus que les navettes des avions des Nations Unies. Et plus personne ne s'aventure par la route. Il y a des enlèvements, il y a des attaques, il y a des attentats de toutes sortes. Donc c'est un peu limite. Et voilà, et pour vous rapporter quelques sons, un peu d'informations, un peu de culture, un peu de connaissances. Il faut en faire des choses.
Ah voilà, on est devant un nouveau magasin, c'est plutôt une échoppe. Et on sort des chapeaux blancs. Alors voilà, on va faire l'essayage, le petit chapeau. La suite du déguisement.
Il faut une grosse, moi, parce que j'ai une très grosse tête.
Alors c'est le chapeau de Kandahar, c'est le Kandahari. Ça c'est brodé, ça c'est très chic ça.
Non, c'est pas possible, Guy, tu vas pas te balader avec un petit chapeau avec des perles.
Non, c'est...
Il n'a pas des chapeaux blancs. Non.
Ils sont très coquets, hein, Kanda.
Les islamistes sont très coquets.
Ils ont des chemises brodées, tu sais, ils mettent du col.
Ils
mettent du henné sur la barbe et la calage en bandoulière.
Voilà. Très soigné, hein.
Ça y est, voilà, moi j'ai trouvé mon chapeau.
Ah, c'est bien.
Ah oui.
Vous êtes en train de vous foutre de nous et tout le monde va se marrer.
Ah non, non,
pas du tout. On va arriver à Kandahar et tout le monde va rigoler. On dit, voilà les deux Français, oui.
Non. Mais ça, tu vois, ça passe mieux là-bas.
Alors avant de partir pour Kandahar, on va faire un petit tour dans une madrasa. Une madrasa, c'est-à-dire une école coranique, là où des jeunes gens, des garçons, là en l'occurrence, font leurs études. Font leurs études, mais enfin des études coraniques. Alors il en est de terribles de ces écoles, notamment au Pakistan, où on forme vraiment les jeunes gens qui se préparent au djihad, des combattants qui iront jusqu'au sacrifice suprême. Mais c'est pas le cas de toutes ces écoles coraniques. Faut pas s'imaginer que c'est les écoles qui fabriquent des monstres humains, mais au moins qui fabriquent des jeunes gens, des garçons, là en l'occurrence, encore une fois, avec quelque chose d'assez puritain. Assez puritain, ce qui ne manquera pas de rappeler aux plus anciens certains pensionnats d'autrefois, quand les écoles étaient libres dans notre bel hexagone.
Ça, c'est un madrasa, c'est pas une école. Madrasa, c'est différent qu'une école. Madrasa, l'endroit où ils prennent les cours religieux. Et dans l'école, ils prennent des cours de sciences, d'histoire et de tout ça.
Madrasa, c'est un endroit où je suis arrivé à l'islam, l'islam, le din. Comme assassin, les gouvernements de l'Arabie, les talibans, les talibans, les talibans, les talibans, les
Nous sommes ici pour apprendre la religion et toute la religion et aussi travailler pour notre pays.
D'accord. Alors, ça consiste en quoi? Quel âge vous avez d'ailleurs? Vous avez 18 ans?
J'ai 18 ans, je suis un élève de 10e classe de cette madrasa.
Et tout, c'est toi?
J'ai 19 ans et moi je suis étudiant de 8e classe.
J'ai 16
ans, je suis en deuxième année d'école ici. Je suis ici pour apprendre le Coran par cœur.
Et vous tous, vous apprenez le Coran par cœur?
Dès la première année d'école ici jusqu'en cinquième année d'école, on apprend le Coran par cœur et puis par la suite, on apprend d'autres choses sur la religion, par exemple l'exégèse et les hadiths.
À l'âge que vous avez, les uns et les autres, vous savez le Coran par cœur?
Oui, nous avons tous appris le Coran par cœur.
Vous êtes combien d'élèves ici dans cette madrasa?
À peu près 600 élèves ici.
Et combien de filles?
Non, ici on n'a pas de filles avec nous, mais un peu plus loin il y a une madrasa pour les filles.
Ah, elles sont combien?
Comme on ne peut pas se rendre là-bas, on ne sait pas combien elles sont.
D'accord, donc vous n'avez aucun contact avec elle?
Non.
On vous l'interdit? Vous aimeriez, vous, avoir des contacts avec les filles ou il ne faut surtout pas?
C'est interdit par notre religion de regarder la femme des autres et les autres filles. C'est le diable qui nous tente.
Ah, le diable?
Oui, c'est le diable qui nous tente. On ne doit pas regarder les femmes pas légitimes.
Mais pourtant, quand on est jeune comme vous, vous avez 17, 18, 19 ans, on est attiré par les femmes.
Non, comme c'est interdit, nous, on ne pense pas à ça. Si, bien sûr, on y pense de temps en temps, c'est à nos femmes légitimes, mais pas à toutes les filles comme ça.
Mais les femmes légitimes, vous êtes mariées? Toi, tu es marié. Enfin, quand même, pour les autres qui n'ont pas de femme, ça ne va pas être facile tous les jours, hein, les gars. Qu'est-ce que vous préférez comme genre de femme? Les femmes afghanes ou les femmes occidentales? Les actrices dans les films indiens, elles sont très belles. Moi, je craque.
Je craque.
با چوکار لاندې رواني مثال خو خیا پرده کی
هغه توري او سپین او کار قسمي هغه
بس ça dépend de son éducation hein. Nous on veut des femmes bien éduquées qui respectent les préceptes de l'islam
avant tout. Donc tu vois, par exemple, tu pourrais pas te marier avec Madonna.
Madonna.
Aga ke Islam tarawuri, Islam qabul ki. Nubeza musulman shor sarawuri, shariat ta da man nikata dali.
Si il accepte l'islam, si elle rentre dans la religion islamique, oui, pourquoi pas.
À condition qu'elle se convertisse.
Non, non. Les gens de Lif, tu as. Voilà.
Oui, les gens de Lif.
Alors, par exemple, une actrice indienne, si elle est bouddhiste, hop, tu ne peux pas l'épouser.
S'il tombe amoureux, il fait comment? Il est fou amoureux.
Oui, parce qu'il y a quand même une chose, voilà. La religion, c'est très fort, mais c'est des fois, on devient amoureux. Comment on fait quand on devient amoureux?
C'est
vrai que dans l'amour, il y a toutes les situations, on a des épreuves. Mais ceux qui tombent amoureux d'une indienne comme ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment...
Leur foi n'est pas assez forte.
Voilà, leur foi n'est pas assez forte, oui.
Donc, la question, c'est d'avoir la foi la plus forte possible.
Quelqu'un qui a une foi forte ne peut pas tomber amoureux d'une actrice indienne.
Qu'est-ce qu'il y a à Ram encore? Par exemple, moi j'ai un ami ici, à Kaboul, il a ouvert un cinéma. Est-ce que tu irais dans son cinéma? Si je t'invite à aller au cinéma de mon ami à Kaboul?
C'est un grand péché d'aller au cinéma. Alors là, je n'irai pas.
Alors, d'accord, à Ram.
À
Ram, ok. Et la télévision?
C'est la même chose. Ah, ça se ressemble beaucoup, c'est la même chose.
Aram, la télévision.
Oh, télévision, man, y'a un programme, on a le cricket, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le
football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le
football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, le football, programme culturel et religieuse, mais à condition que tu ne manques pas une prière de la journée.
Ah, tu peux regarder le football, tu peux regarder le cricket, le sport.
Les films sur les animaux, animaliers. Les films sur le djihad.
Sur le combat.
Oui, à condition qu'il n'y ait pas de femme dedans.
Ah, les films sur le djihad, à condition qu'il n'y ait pas de femme dedans.
Non.
Alors comment on fait pour savoir qu'on a une foi très forte?
On peut savoir, on peut évaluer sa foi quand on a des tentations. Et à chaque fois qu'on est tenté par des mauvaises choses, si on résiste aux mauvaises choses, on sait qu'on a une foi forte.
Alors, par exemple, tu as eu l'occasion, toi, de résister à des choses comme ça qui te tentaient, puis paf, tu as vu que ta foi était forte.
Oui, moi, ça m'est arrivé des épreuves comme ça, et j'ai résisté à tout ça, et je me suis sauvé.
Oui, mais n'oubliez pas l'essentiel. Hein. Quelqu'un qui a une foi assez forte ne peut pas tomber d'une actrice indienne. C'était une émission avec Guy Vanctil parmi les Embedded. Merci au lieutenant-colonel Fouquereau, capitaine Garrigue, Akbar Khan. Et merci également à Alain Labrousse et à notre second traducteur, Essan Meranguet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et vous pouvez la réécouter également sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Jean-Noël Vélan, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission. Montage, Raphaël Moutard, assistante Pascal Le Pascariello et Christophe Imbert vous attend auprès du répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.